La population mondiale est-elle en train de souffrir d'une intoxication généralisée au sucre? Si l'on en juge par l'épidémie actuelle d'obésité et de diabète, la question mérite d'être posée. Il y a quelques jours, dans La Tête au Carré, le professeur Didier Raoult classait le sucre parmi les substances les plus addictives et les plus dangereuses pour la santé, à l'instar du sel et du tabac. Que sait-on réellement des liens entre le sucre et la santé? C'est le thème de notre émission aujourd'hui. Avec vos messages, toutes vos questions, vous nous rejoignez en direct franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Il s'agit d'une première mondiale. Des chercheurs français seraient parvenus à créer des spermatozoïdes humains in vitro et c'est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour, oui Mathieu, c'est un bel espoir pour beaucoup d'hommes et une prouesse technique aussi que nous allons vous détailler dans un instant avec vos questions sur Twitter comme tous les jours, hashtag l'attaque.
Et Violaine Ballet est aux commandes de l'émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Nassim Chik.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le sucre est-il devenu l'un des pires fléaux du XXIe siècle pour la santé humaine? C'est dans un instant le dossier de La Tête au Carré. Pour en parler, la psychologue clinicienne Michèle Le Barzic, le chirurgien en cancérologie Édouard Pélissier et le biologiste Sylvain Duval. Bonjour à tous les trois.
Bonjour,
et bienvenue. Sylvain Duval, est-ce que le sucre est devenu une drogue aussi addictive que la cocaïne? Certains l'écrivent en tout cas.
Alors certains l'écrivent, il va falloir en discuter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça déclenche du plaisir et que on peut être accro au plaisir. C'est la première réponse.
Chez les souris en particulier, d'ailleurs. Michèle Le Barzic, l'OMS a lancé mercredi une alerte contre l'accroissement spectaculaire de l'épidémie d'obésité pour les 15 prochaines années. Est-ce que le sucre est, selon vous, l'ennemi public numéro 1?
Ah, moi, je pense qu'aucun aliment n'est l'ennemi public numéro 1, qu'une alimentation est forcément diversifiée puisque l'homme est omnivore et qu'il n'y a pas de bons et de mauvais aliments, mais qu'en revanche, la nourriture, il y a énormément de représentations idéologiques sur les aliments et pendant plusieurs décennies pendant lesquelles j'ai exercé, j'ai vu des diabolisations qui alternaient entre le sucre, la graisse, quelquefois les protides, etc., etc. Donc le sucre a été d'abord un bon aliment, ensuite un mauvais aliment, ensuite à nouveau un bon.
Et pas terrible en ce moment non plus.
Et en ce moment, il est à nouveau, c'est le diable dans l'assiette moderne. Donc bon.
Édouard Pélissier, est-ce que les édulcorants artificiels représentent un danger pour la santé humaine? Est-ce que cette alternative n'est pas forcément souhaitable non plus? Vous avez écrit un livre sur les questions.
Elle n'est pas souhaitable non plus. Pas tellement pour le problème du risque cancérogène dont on parle beaucoup, mais parce que lorsqu'on fait les recherches microbiographiques, on se rend compte qu'il y a au moins 7 grandes études de cohortes qui montrent de cohortes importantes de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont suivies pendant des dizaines d'années et qui montrent que, in fine, la consommation essentiellement de boissons aux édulcorants est associée au même problème que la consommation de boissons sucrées.
Eh bien, on y reviendra avec vous dans un instant. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ce thème pur sucre dans La Tête au Carré. À la une de la science, donc aujourd'hui, un bel espoir pour combattre l'infertilité masculine et pourquoi pas la baisse de qualité du sperme.
C'est un phénomène constaté depuis des années en France. La qualité du sperme décline. De 75 millions de spermatozoïdes par millilitre en 1989, on est passé à moins de 50 millions en 2005. Moins de spermatozoïdes à l'arrivée, la chance d'en avoir des vaillants jusqu'à l'ovule est donc moindre.
Et si justement la solution passait par la création in vitro de spermatozoïdes, des chercheurs français ont annoncé vendredi avoir obtenu justement des spermatozoïdes humains complets et tout à fait fonctionnels à partir de cellules souches germinales. C'est une première mondiale dont la confirmation est très attendue et nous sommes en ligne depuis Lyon avec les deux principaux auteurs de ces travaux, Marie-Hélène et Philippe Durand. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux biologistes, Marie-Hélène au CNRS et Philippe à l'INRA. Vous êtes cofondateur du laboratoire Calistem. Alors racontez-nous, Philippe Durand, comment vous êtes parvenu à créer des spermatozoïdes in vitro dans votre labo?
Alors créer, c'est peut-être un petit peu excessif. Disons que nous sommes partis de cellules germinales mâles immatures, les spermatogonies, et en les mettant dans un système de culture adéquat, on a réussi à les faire se différencier jusqu'en spermatozoïdes matures avec leurs flagelles, leurs têtes, leurs coups. Voilà.
Marie-Hélène, quel verrou technique vous êtes parvenue justement à lever pour parvenir à ce résultat qui commence déjà à faire beaucoup parler?
Eh bien, en fait, le nouveau système de culture a permis de faire la dernière étape de la spermatogénèse, c'est-à-dire la spermiogénèse, parce que dans un système de culture mis au point précédemment, on arrivait à aller de la spermatogonie jusqu'à la spermatide ronde. Et là, donc, ce nouveau système de culture qui a fait l'objet d'une demande de brevet permet donc de lever ce dernier verrou, c'est-à-dire d'effectuer la spermiogénèse, le passage de la spermatide ronde jusqu'au spermatozoïde ex vivo, c'est-à-dire en dehors de l'organisme.
Donc ça, c'est vraiment le problème sur lequel vous butiez jusqu'à présent ?
Oui.
La publication des travaux là se fait franchement attendre. Pourquoi attendez-vous avant de révéler les publications ?
Il n'y a pas de publication pour l'instant, il faut expliquer ça aux auditeurs.
Il y a une demande de brevet.
Ouais.
Et le brevet ne sera public que fin juin. Donc il ne faut pas révéler le contenu du brevet avant cette date.
Philippe Durand, il y a beaucoup de compétition dans ce domaine de la création de spermatozoïdes ?
Alors encore une fois, la création me gêne un petit peu. La fabrication, je préférerais
Allez,
il y a beaucoup de compétition de la part de pas mal d'équipes dans le monde. Mm-hmm. Certaines ont des approches différentes, c'est-à-dire qu'elles souhaitent prendre des cellules somatiques et les transformer en cellules germinales pour faire des spermatozoïdes. Nous sommes physiologistes et ce qu'on fait, c'est qu'on prend des cellules germinales immatures dans le testicule et qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas se maturer dans le testicule. Donc on les met dans des conditions de culture adéquates pour qu'elles puissent faire naturellement, je dirais, le plus naturellement possible, ce qu'elles auraient fait dans le testicule s'il avait été fonctionnel.
Mmh. Donc là, on a des testicules fonctionnels, mais est-ce que l'information génétique qu'ils portent est complète ?
Des spermatozoïdes fonctionnels.
J'ai dit quoi ?
Des testicules.
Oh pardon, des spermatozoïdes.
Alors les spermatozoïdes, c'est l'enjeu actuel. Pour le moment, on sait que d'un point de vue morphologique, ils sont tout à fait normaux, apparemment. Mm-hmm. Donc maintenant, ce dont on va s'assurer, c'est que les petits ratons ou souriceaux issus de ces spermatozoïdes maturés in vitro sont normaux d'un point de vue physiologique, d'un point de vue comportemental. Et quand on passera à l'homme, on a un certain nombre aujourd'hui de méthodes d'approche biochimique pour s'assurer que le génome est normal.
Et là, vous en avez déjà des petits rats, alors, c'est ça ?
Non, pas encore.
Pas encore ? Quand est-ce que vous allez commencer, alors, sur l'animal ?
Sur l'animal, on commence mardi prochain.
Bon, et là, il y en a pour combien de temps avant, justement, de s'assurer que le spermatozoïde est bien fonctionnel et qu'on puisse ensuite passer à l'homme ?
2 mois, à peu près. 1 à 2 mois.
1 à 2 mois seulement ?
Oui.
Oui, parce qu'on va faire les essais
chez la souris
d'abord.
Mm-hmm.
Et la durée de la spermatogénèse chez la souris, c'est 30 jours. Donc on aura rapidement la possibilité de micro-injecter ces spermatozoïdes dans un ovocyte de souris, de faire la transplantation dans des femelles receveuses et d'avoir des petits ratons au bout d'un mois.
Bon, ce qui est pratique avec les rats, c'est qu'on a des générations beaucoup plus rapidement qu'avec les humains.
Chez l'homme, ça dure 72 jours.
Voilà, donc ça permet d'avoir beaucoup plus de recul.
Et chez l'humain, justement, quels seraient les destinataires de votre découverte ?
Alors, on en cible a priori deux. La première étant les petits enfants, les petits garçons qui sont traités pour cancer avant la puberté. Donc ceux-là, ils n'ont pas de spermatozoïdes. On ne peut pas congeler des spermatozoïdes.
Donc le but, ce sera de prendre un tout petit morceau de pulpe testiculaire de ces petits garçons. Et à l'aide de ce système de culture, donc d'obtenir à partir de leur spermatogonie propre leurs spermatozoïdes qui seront donc congelés. Et ces jeunes garçons, en général, ont 80% de chances de survie à un cancer. Donc quand ils auront grandi et qu'ils auront un projet parental, eh bien on pourra décongeler leurs spermatozoïdes et effectuer une ICSI avec l'ovocyte de leur compagne.
Sauf que Philippe Durand, est-ce que justement les cellules souches d'enfants congelés pourraient donner les mêmes spermatozoïdes que celles d'un homme adulte ?
Oui, parce que finalement, les spermatogonies, elles se renouvellent tout au long de la vie d'un individu. Donc les spermatogonies des jeunes, et ça on l'a testé nous dans le modèle animal, on a produit des spermatozoïdes
à partir de spermatogonies de petits rats de 8 jours, par exemple, donc qui sont vraiment l'équivalent avant la puberté du rat, ou à partir de spermatogonies de rats qui sont déjà pubères, et on obtient les mêmes résultats.
On parle beaucoup en ce moment de la baisse de qualité du sperme. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez quand vous faites ces recherches-là? Parce que ça pourrait être une solution aussi.
Ça pourrait être aussi une solution, par exemple, pour les gens qui ont ce qu'on appelle une azoospermie sécrétoire, non obstructive, sécrétoire. C'est-à-dire, ces gens-là, ils ont des spermatogonies, mais pour une raison ou pour une autre, le développement de leur spermatogonie est bloqué à une étape de la spermatogénèse. Donc on peut imaginer, ça fait quand même 20 ans qu'on travaille sur ces régulations locales de la spermatogénèse, donc on peut tout à fait envisager que si on met leur spermatogonie dans des conditions correctes, elles vont pouvoir continuer leur évolution jusqu'au spermatozoïde.
Eh bien, écoutez, on va suivre ça de très près, alors avec les rats d'abord dans un premier temps, hein, Marie-Hélène et Philippe Durand, et puis ensuite donc peut-être le passage à l'humain, c'est tout ce qu'on vous souhaite, avec une publication donc qui devrait arriver aussi dans les semaines qui viennent, dans une grande revue, on imagine. En tout cas, c'est une première mondiale, fabrication donc de spermatozoïdes in vitro.
Voilà.
Oui. On vous réécoute dans le podcast, donc ce soir, demain, tous les jours, 10 minutes de science à la une. Tous les jours.
Et pour retrouver vos explications. Merci beaucoup Marie-Hélène et Philippe Durand. Vous étiez donc en ligne depuis Lyon. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, vous vous êtes peut-être toujours demandé pourquoi le chocolat blanchissait au fil du temps. Eh bien, les chercheurs de l'université de Hambourg ont enfin trouvé la réponse en découvrant le mécanisme de formation de la pellicule blanche qui apparaît sur le chocolat lorsqu'il vieillit. En passant une tablette au rayon X, ils ont pu observer que la structure cristalline des lipides du chocolat migrait par capillarité vers la surface. L'étude financée par Nestlé pourrait permettre d'éviter la perte de tonnes de chocolat chaque année devenues impropres à la vente, bien que comestible. Un sociologue allemand s'est penché, lui, sur le comportement des maîtres vis-à-vis du ramassage, des défections de leurs chiens. D'un côté, il y a ceux qui s'assurent que tout le monde a constaté leurs gestes citoyens et les autres qui feignent de n'avoir rien vu. Le sociologue a constaté que les crottes sont plus souvent ramassées lorsqu'elles sont dans un espace bondé, alors que les mêmes personnes les auraient laissées par terre dans une rue déserte. Mais attention, l'étude indique que certaines villes, comme Londres, vont mettre en place des tests ADN pour retrouver les propriétaires des excréments oubliés. Et puis enfin, un homme opéré qui joue de la mandoline à un habitant d'Oklahoma City aux États-Unis a dû être opéré en urgence, pour une tumeur au cerveau de la taille d'une balle de tennis. Et pour s'assurer qu'aucun dégât n'était causé aux capacités cognitives du patient, les chirurgiens lui ont demandé de jouer de la mandoline tout au long de l'opération afin de s'assurer donc qu'aucune fonction n'était touchée. 5 heures plus tard, 99% de la tumeur a pu être retirée avec succès. Vous pouvez retrouver la vidéo de l'opération en musique sur la page Facebook de La Tête au Carré. Le sucre est-il devenu notre poison? C'est la question posée dans un instant à nos invités. You take away the Lugmina avec le groupe Chicago sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Le sucre est-il devenu un poison moderne? C'est donc le dossier cet après-midi. Mes invités pour en parler, Michèle Barzig, vous êtes psychologue clinicienne, vous avez exercé au service de médecine et nutrition de l'hôpital Hôtel Dieu à Paris et vous avez publié La meilleure façon de manger, c'est en 98 hein, déjà, chez Odile Jacob. On a écouté vos conseils d'ailleurs depuis ou pas à votre avis?
Pas du tout.
Bon, au moins c'est clair. Édouard Pellissier, vous êtes chirurgien en cancérologie, membre de l'Académie nationale de chirurgie et vous êtes l'auteur d'un livre plus récent, La vérité sur le sucre et les édulcorants, également chez Odile Jacob. Et puis Sylvain Duval, vous êtes biologiste, membre de l'association Formindep et depuis peu administrateur du réseau Environnement Santé. Votre livre, Guide des aliments contre les idées reçues, est paru aux éditions du Cherche Midi. Voilà les questions, les messages déjà nombreux sur le site de l'émission, les messages courts sur le mot-clé l'attaque. Est-ce que nous mangeons trop de sucre? C'est vrai qu'en ce moment, le discours médical est assez sévère hein, contre le sucre. Qu'on accuse entre autres d'être à l'origine de l'épidémie mondiale d'obésité. À quoi pense-t-on d'abord lorsque l'on parle de sucre? On va peut-être commencer par ça, parce que ce n'est pas aussi simple qu'il n'en a l'air. Alors, Michèle Barzig, par exemple.
Eh bien, bon, moi je ne suis pas nutritionniste, je suis donc psychologue, et je me situe non pas du côté de l'aliment, mais du côté du mangeur. Mm-hmm. Et en l'occurrence, la majorité des mangeurs dont je suis, quand ils se réfèrent au sucre, se réfèrent à une saveur. Alors que de l'autre côté, il y a tous les experts qui expliquent qu'il y a toutes sortes de sucres, et que ces sucres ont énormément de qualités organoleptiques différentes, oui. Bonnes ou mauvaises, peu importe. Et il y a même des sucres qui ne sont pas sucrés.
Oui, par exemple. Savoir. Vous pensez à quoi?
L'amidon que vous trouvez dans un certain nombre d'aliments n'ont pas de saveur sucrée.
Ouais. Sylvain Duval, alors le sucre, qu'est-ce que c'est vraiment? Alors,
quand cette émission on dira le mot le sucre, souvent on dira donc le saccharose, c'est-à-dire le sucre de table, souvent celui qu'on ajoute là en poudre dans un café ou dans un produit. Et puis on peut aussi, parce que le fructose, on peut aussi en rajouter maintenant pour certains diabétiques. Pendant un moment, on mettait beaucoup de fructose parce qu'il était censé être bon. Moi, dans mon guide, j'explique que c'est aussi un peu une idée reçue, en tout cas à nuancer. Et puis quand on parle de glucides en général, là, on arrive, comme disait Michel, à tout ce qui est féculent, par exemple, tout ce qui contient de l'amidon, des choses comme ça. Et puis il y a de nombreux sucres, on ne va pas faire la liste, mais le sucre peut vraiment se cacher dans les étiquettes sous de nombreuses formes, dextrose, sucre inverti, glucose fructose, des choses comme ça.
Édouard Pellissier, pour compléter sur cette première question.
Je voudrais insister surtout sur le fait qu'en France, on a tendance à confondre le sucre et ce qu'on appelle les sucres, qui en fait sont les glucides. Et comme vous avez dit, les glucides qui sont contenus dans les légumes secs, les pâtes, etc., n'ont pas le même métabolisme que le sucre sucrant, on va dire.
D'accord.
Alors, c'est essentiellement le saccharose, mais aussi le fructose en quantité dans le fameux sirop de maïs à forte teneur en glucose, en fructose, qui est très utilisé dans l'industrie.
Donc là aussi, pas le même métabolisme.
Non, c'est ça le problème. Lorsqu'on dit que le sucre est l'aliment de l'effort, ce n'est pas tout à fait vrai. Le glucose est indispensable, mais les principales sources de glucose pour l'effort ne sont pas les sucres sucrants, mais ce qu'on appelait autrefois les sucres lents.
Mmh. Michel de Barzic, c'est le sucre, c'est de l'énergie. Hein. Ça fait référence justement à ce slogan qu'on a beaucoup entendu à une certaine période, qui a un petit peu disparu aujourd'hui. Mais c'est cet effet ping-pong justement, des périodes où on mettait en avant les bienfaits du sucre.
Voilà. Il y a même une période où c'était considéré, mais c'était il y a quelques siècles, comme un médicament, hein, comme une médecine. Mais le sucre, du point de vue de la psychologue, c'est d'abord et surtout du plaisir, et le plaisir est indispensable à l'équilibre, non seulement alimentaire, mais vital.
Daniel demande d'ailleurs sur franceinter.fr, est-ce que notre organisme a besoin de sucre, mis à part précisément cette notion de plaisir, Édouard Pélissier ?
Absolument pas. On n'a pas besoin de sucre, on a besoin de glucose, et les meilleures sources de glucose sont les féculents, mais pas le sucre, parce qu'il a un indice glycémique élevé, beaucoup plus élevé, et on peut revenir sur l'indice glycémique qui a des effets défavorables.
Sylvain Duval.
Alors oui, là, il va falloir un petit peu parler dans cette émission d'index glycémique et de charge glycémique. C'est un mot maintenant que les auditeurs commencent à connaître, mais qui permet de se débarrasser de certaines idées reçues, comme on va dire, le pain est un sucre lent, c'est une idée reçue.
Alors ça sert à quoi l'index glycémique exactement ?
Alors l'index glycémique, c'est quelque chose qu'on obtient en comparant un étalon. On fait manger à différentes personnes, donc un sucre, le glucose, par exemple 50 grammes, et on va prendre la quantité identique de sucre dans un aliment, cette fois, consommé tout seul, et on va regarder en fait l'effet sur la glycémie. Donc cet index glycémique est obtenu en fait en mesurant le glucose dans le sang.
Alors, une précision importante quand même, c'est qu'aucun d'entre vous n'a de lien avec l'industrie agroalimentaire. C'est important de le préciser dans ce domaine hautement puissant du sucre, parce qu'il y a beaucoup de pression de la part des lobbies. On en parlera également avec vous. Édouard Pélissier, une question aussi au chirurgien en cancérologie que vous êtes. De quelle façon est-ce que vous avez été amené à vous intéresser au sucre ? C'est quoi le lien ?
Eh bien, faisant beaucoup de cancérologie, j'ai eu l'occasion de remarquer qu'un grand nombre des patients qui m'étaient adressés pour cancer avaient aussi d'autres pathologies associées, notamment souvent l'obésité, le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Donc j'ai cherché à savoir quel était le substrat commun à tout ça. J'ai trouvé dans la littérature médicale une relation à un état d'inflammation chronique de bas grade. C'est comme ça que je me suis intéressé aussi à la nutrition et de là au sucre, qui est un élément important parmi les aliments défavorables.
Mais aujourd'hui, il y a une littérature scientifique sur ce lien entre cancer et sucre. Il y a des choses directes ou pas ?
Alors, le lien entre cancer et sucre, il y a d'abord un lien très nettement prouvé entre sucre et obésité. Or, l'obésité est un facteur de cancer. Donc, on a un lien indirect. Et il y a au moins 3 études, il y en a peut-être plus, j'en ai trouvé 3, qui mettent en évidence une relation statistique directe entre forte consommation de sucre et cancer, en particulier du pancréas.
Et c'est compliqué de faire le lien direct justement entre une pathologie et le facteur sucre ou pas ?
Alors, toutes ces études sont basées sur des questionnaires d'alimentation remplis par des cohortes de volontaires qui acceptent de se soumettre à des examens et de détailler tout ce qu'ils consomment et aussi toute leur activité physique, tabac, etc. Et on établit ensuite des corrélations statistiques. Et il y a des méthodes statistiques pour garder a priori les éléments qui sont les plus importants.
Michel de Barzic, c'est compliqué de mener des études justement sanitaires autour de l'alimentation ?
Ben, écoutez, moi je pense que la majorité des études qui sont faites sont en fait méthodologiquement non valide parce que ça donne des pourcentages d'un aliment ou d'un autre sans avoir vérifié que la proportion qui reste d'autres aliments, faut pas oublier que l'homme est omnivore, il ne consomme pas que un aliment dans son alimentation, donc on ne peut pas vérifier, c'est impossible à faire en réalité, on ne peut pas vérifier que le reste de l'alimentation est comparable au niveau par exemple des protides, des lipides.
Donc pour vous c'est tellement complexe au fond un repas, qu'on n'arrive pas à identifier exactement l'aliment responsable d'une pathologie.
Absolument. Je pense que c'est très compliqué d'isoler l'effet d'un aliment sur une pathologie. Par exemple, quand on parle de consommation de sucre chez les obèses, de quels obèses parle-t-on? Est-ce que c'est avant l'obésité, parce que ceux qui consommaient à devenir obèse, c'est ce qu'on infère en général, mmh. ou c'est ce qu'ils consomment une fois devenus obèses parce qu'ils ont réduit, par exemple, la graisse, donc il y a en proportion plus de sucre.
Les lobbies ont des choses intéressantes à nous dire à ce sujet-là, d'ailleurs, Sylvain Duval, sur l'obésité et le sucre. Hein. Ils nous sortent des énormités parfois. Mais...
Par exemple, les lobbies, souvent, ils vous disent que les obèses consomment moins de sucre, donc ce serait la preuve que finalement, le sucre ne peut pas être responsable de l'obésité, alors que finalement, le biais, c'est que les gens qui sont obèses, souvent, sont restreints, se restreignent en sucre, et peut-être même que cette restriction cognitive, c'est un mot qu'on utilise quand on parle de régime, est à l'origine en partie de leur obésité.
Ouais. Qu'est-ce que vous répondez, Édouard Pélissier, à Michel de Barzic, justement, sur ses réserves quant aux études scientifiques autour de l'alimentation ?
Mais d'abord, on ne peut pas faire autrement. Il faut bien admettre qu'aucune science n'est parfaite et qu'il faut accepter des marges d'erreur.
Ceci dit... Mais là, c'est plus qu'une marge d'erreur. C'est sur la méthodologie apparemment.
Alors, la méthodologie... permet quand même de faire la différence parce que ces gens-là sont toujours volontaires. Ça peut déjà introduire un biais, je suis d'accord. Mais ils s'engagent à remplir des questionnaires très détaillés. Donc, on ne leur dit pas « est-ce que vous mangez du sucre ?» Point. On étudie dans leur questionnaire tout ce qu'ils consomment. Et ensuite, on donne un poids statistique à ces différentes substances.
Et il faut dire, Édouard Pélissier, que souvent les études sont menées autour des boissons sucrées, c'est ça ?
Alors, pour le sucre, le plus facile, c'est effectivement de demander combien ils consomment de boissons sucrées par semaine, par mois, par jour, etc.
Oui, je vous répondrai qu'il y a quand même un certain nombre de facteurs inconscients qui ont été démontrés par la littérature, en particulier par la sociologie, qui montrent qu'en toute bonne foi, on minimise les choses que l'on croit, que l'on considère comme négatives, et on a tendance à valoriser ce que l'on considère comme positif. Il y avait une étude dont je parlais dans le livre « La meilleure façon de manger » qui était très passionnante. On avait pris des boulimiques à 10 ans d'intervalle. Donc on les avait interrogées en leur demandant combien elles avaient eu de crises de boulimie dans l'année et combien elles avaient fait de régime dans la même année. 10 ans après, on leur pose la même question et on s'aperçoit qu'il manque à peu près la moitié des régimes. Le régime étant un comportement normal et positif, elles avaient minimisé le nombre de régimes qu'elles avaient fait.
On va aller au-delà de la méthodologie.
C'est pareil par rapport au sucre,
dans un instant,
rapport aux aliments considérés
négatifs. Parce qu'on a quand même des choses à vous dire, effectivement, qui sont très intéressantes et qui émanent des études scientifiques, avec vos messages qui sont nombreux et qui arrivent sur franceinter.fr.
Écoutez criser l'aiguille sur le sillon.
Cliché sur France Inter avec Élie Kon et Jean-Michel Montu qui signe la programmation musicale de l'émission.
Pour tout ce qui est sucre, c'est moi l'expert. Chronicle, le festival, la fameuse tarte à la crème. J'étais là. Et pique-nique royal. J'étais là. Oh la reine. Et les petits fours. Les petits fours exceptionnels. Et sur la lune. J'étais là.
Voilà, pub de Jean-Paul Goud. C'était en 93 pour évoquer le sucre donc dans le dossier de la tête au carré avec Michel Barzic, Édouard Pélissier et Sylvain Duval. 93, si on fait un peu l'historique du sucre, Michel Le Barzic, c'est une période plutôt faste ou pas pour cet ingrédient?
Je n'ai absolument pas tenu le calendrier. Je peux vous dire que je les ai vus aussi.
C'était tellement fluctuant, hein.
C'était vraiment le sucre et les gras se sont passés la balle régulièrement et les pauvres patients dont l'obésité, elle ne faisait que croître au fur et à mesure qu'ils essayaient de la réduire en faisant des régimes tous plus sévères les uns que les autres, ne s'y retrouvaient plus.
Ouais.
Donc je peux pas vous dire en 93, bon. Que l'agroalimentaire ait envie de le réhabiliter quand il est diabolisé, c'est la règle du jeu,
ouais.
Si je puis dire.
Ouais. Édouard Pélissier, depuis quand on parle d'une consommation généralisée du sucre, justement?
La forte consommation date des années 60, avec la généralisation des aliments industriels, dans lesquels il y a du sucre pratiquement partout, et la grande consommation des boissons industrielles.
Donc vraiment après la Seconde Guerre mondiale, c'est à ce moment-là qu'il y a une explosion en tout cas de la consommation.
Oui, si vous
consommation,
voulez un chiffre, en France, en 1953, la consommation par habitant était de 26 kilos par an.
Mmh.
En 1974, 40 kilos, et depuis elle a dû encore augmenter.
Ouais. Comment justement, Sylvain Duval, on mesure la consommation de sucre par habitant? Et puis il y a des recommandations de l'OMS aussi en ce sens?
Alors vous avez des études, par exemple de l'INCa, donc l'Institut National de la Consommation Alimentaire, qui mesure ça. L'ANSES aussi a fait des études. Donc récemment il y a eu l'étude EAT là qui regarde en fait l'alimentation totale. Donc tout ça c'est mesuré. Et puis sur les boissons, effectivement, pour reprendre un peu le chiffre de ce qu'on vient de nous dire, là ça a augmenté de 300% en 20 ans les boissons sucrées.
Oui.
On est passé à peu près de 200 ml à 600 ml, donc la fois 3. Les boissons sucrées sont la première source de sucre ajouté dans la consommation des enfants. Et on peut dire maintenant qu'il y a au moins 85% des enfants qui consomment une boisson sucrée par jour et 20% en consomment 4 à plus.
Oui. Est-ce qu'on peut faire des courbes parallèles justement avec l'augmentation de l'obésité, du diabète?
Oui, mais faire une courbe parallèle, c'est toujours une corrélation, c'est statistique, c'est jamais une causalité, c'est jamais une preuve.
Oui. Édouard Pélissier, il y a une dose maximale de sucre considérée comme sans danger justement pour les individus ou pas?
Alors, pour l'OMS, c'est pas plus que 10% de la ration calorique quotidienne.
Mmh.
Ça revient à dire 45 grammes pour une femme, 50 grammes pour un homme. Et pour l'Association des cardiologues américains, dans un papier récent, après une analyse très détaillée des publications, c'est 20 grammes pour une femme et 36 grammes pour un homme, c'est-à-dire trois fois rien.
Oui, 32 grammes alors, ou 36 grammes, c'est quasiment alors, une canette de boisson sucrée à peu
oui,
près.
Oui, c'est 33 grammes
une canette. C'est cet équivalent. Hein. Nadia nous dit ceci, j'ai lu que certaines expériences scientifiques ont montré l'importance du glucose dans le processus de réflexion et que l'effort intellectuel requiert aussi du glucose. Quel type de glucose sont recommandés pour l'effort intellectuel? Alors,
eh bien, d'abord, il n'y a qu'un type de glucose, il n'y a qu'une molécule de glucose.
Mmh.
Deuxièmement, il est exact que c'est indispensable à l'effort intellectuel. Et nous avons besoin de glucose en permanence. Et il faut savoir, en contrepartie, que le glucose est toxique pour les cellules. Donc, nous avons un système de régulation qui est réglé par l'insuline et le glucagon, des hormones qui font baisser ou monter le glucose de façon à ce que le taux soit constant dans le sang. Mais on n'a pas besoin de manger de sucre pour avoir du glucose. Il y a du glucose dans la farine, dans le pain, dans les haricots, dans les pois chiches, etc.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Sylvain Duval.
Oui, je voudrais quand même donner quelque chose de précis pour les auditeurs. En fait, on a à peu près 5 litres de sang et on a à peu près 1 gramme par litre. Ça veut dire qu'en fait, ça nous fait 5 grammes. Mmh. 5 grammes, c'est l'équivalent d'un seul morceau de sucre. Comme si dans tout notre sang, on avait finalement qu'un seul morceau de sucre. Le reste du sucre, il est stocké dans le foie, sous forme de glycogène, et un petit peu dans les muscles aussi. Mmh. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, dès qu'on consomme une canette, par exemple, de boissons sucrées, on apporte beaucoup, beaucoup de sucre à l'organisme d'un seul coup.
Ouais. Michel de Barzic, justement, sur les boissons sucrées. Ça, c'est un vrai problème aussi dans l'alimentation contemporaine.
Je pense qu'effectivement, là, il y a un changement de comportement radical, important, et qui probablement, du coup, augmente certes la consommation de sucre, mais aussi la consommation calorique. Parce que le problème de la boisson sucrée, c'est que c'est du superflu. C'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte qu'on mange quand on boit du liquide sucré. Et je pense qu'effectivement, là, il y a vraiment des mises en garde à faire. Et en particulier, les parents doivent contrôler la consommation de leurs enfants. L'eau, ça reste quand même la meilleure des boissons.
On a beaucoup entendu parler des fontaines à soda. Oui. 2 avril de cette année. Discussion et amendement à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen du projet de loi de santé.
Les députés se sont ensuite penchés sur la lutte contre l'obésité avec un amendement d'Arnaud Richard.
Il vise à interdire la pratique dite du free refill qui consiste pour une enseigne à proposer des sodas à volonté. Pratique qui se développe aujourd'hui en France. Mon voisin qui va souvent au Canada, me disait qu'aux États-Unis, au Canada, c'était une pratique habituelle, et on voit les résultats. Et il nous semble que face à ça, il faut avoir des préconisations en matière de santé publique.
Les fontaines à soda libre-service seront interdites dans les lieux publics.
Alors justement, Sylvain Duhal, ça faisait un moment qu'on essayait d'interdire.
Voilà, aux États-Unis, ça fait déjà depuis 1994, puis après 2004 qu'on essaie de l'interdire dans le rapport donc, de l'ANSES 2004 sur les glucides. Déjà, c'était préconisé par le rapport.
Oui. Édouard Pélissier, sur ces fontaines à soda.
Voilà, il est évident que c'est à prohiber. Tout le monde est d'accord là-dessus.
Tout à fait.
Michel Barzic.
Tout à fait. Tout à fait.
Il est temps.
Oui,
s'y attaquer.
Oui. Mais c'est vrai qu'il faut bien penser tout de même que le comportement alimentaire des Français n'est pas celui des Américains en général, des Américains du Nord. Les rations, et là-dessus je crois que la société médicale française a bien limité la taille des portions. Mmh. Et alors le problème, on n'est pas obligé d'adopter ce qu'ils font de pire quand même, oui. Alors qu'on a réussi à
préserver. On dit
toujours
qu'il y a une vague de 10 ou 20 ans qui nous arrive d'Amérique et qui pourrait laisser penser qu'on va consommer les mêmes quantités à peu près que les Américains, les mêmes portions.
Je pense que là, en tout cas, les Européens ont tenu bon, et en particulier les Français, sur la taille des portions, et c'est une excellente chose. Raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est en France qu'il y a le moins d'obésité par rapport à beaucoup d'autres pays.
Même si les projections pour les prochaines années ne sont pas excellentes
même. Oui, enfin, les projections, vous savez, regardez l'étude OBPI 93, de 2013 plutôt, on projetait je ne sais pas quel chiffre, et on s'est aperçu qu'en réalité, ça stagnait. Même s'il y a une classe d'âge où la proportion est tout de même très élevée, comme par hasard, la classe d'âge qui est la cible de la prévention de l'obésité chez les jeunes.
Daniel demande sur franceinter.fr, quelle est la différence entre les sucres lents et les sucres rapides? C'est vrai que on n'entend plus trop ça d'ailleurs, Sylvain Duval, aujourd'hui. On ne fait plus trop la distinction.
Depuis 1980, donc cette notion d'index glycémique dont Édouard Pélissier parle aussi dans son livre, et dans le mien aussi. Donc elle a commencé à émerger. Maintenant, on le retrouve un peu partout. À un moment même, on voulait que ce soit indiqué sur les étiquettes. Bon, là, on rêve un peu. Mm-hmm. Mais en gros, donc, cet index glycémique permet, par exemple, de dire que le pain blanc, une fois que vous l'avez mastiqué, il est très, très rapidement changé en sucre.
Oui.
Pour donner une information concrète, un diabétique qui serait un petit peu en hypoglycémie, donc soit il va essayer de prendre une boisson sucrée pour se resucrer, mais sinon, s'il mâche de la mie de pain très vite, il va retrouver du sucre, mais en quelques minutes. Donc c'est vraiment ultra rapide. Les gens qui pensent que c'est un sucre lent se trompent.
Édouard Pélissier.
Oui, je suis tout à fait d'accord. L'indice glycémique, c'est très important parce que, en gros, lorsqu'on consomme du sucre, le taux de sucre dans le sang monte. La courbe est ascendante. Là, l'insuline intervient pour le faire baisser. La courbe redescend. Et l'indice glycémique, c'est la surface sous la courbe. Mmh. C'est-à-dire à la fois l'intensité et la durée pendant laquelle le sucre, je le répète, exerce ses effets toxiques sur les cellules. Donc, il faut consommer les aliments à index glycémique aussi bas que possible.
Allez, on se retrouve dans un instant. Dernière partie, les messages et les questions et les effets du sucre sur la santé.
She's gonna drive you to the shore.
Patrick Watson, Places You Will Go sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Le sucre, un danger pour la santé, point d'interrogation. C'est le thème du dossier cet après-midi. Michel de Barzic, Édouard Pélissier et Sylvain Duval et vos messages très nombreux sur franceinter.fr. Un petit mot quand même sur cette étude de Bordelaise, je crois, Sylvain Duval, qui avait été menée sur l'addiction au sucre et comparée à l'addiction à la cocaïne sur des rats. Hein.
Alors moi, en première approximation, je dirais que l'homme n'est pas un rat. Donc ça, c'est vraiment, il a des comportements différents.
Donc qu'est-ce que montrait justement le
bah, l'étude montrait tout simplement que les rats préféraient aller vers un liquide sucré qui était injecté, que ils appuyaient sur une petite pédale,
ouais.
Ça leur injectait ça leur donnait un liquide sucré,
plutôt que d'aller sur la cocaïne.
Voilà, sur la cocaïne. Mais là, je pense que Michel est bien plus compétente que moi sur...
Michel de Barzic, qu'est-ce que vous pensez de cette conclusion, en tout cas?
Oui, enfin, je suis pas sûre d'être plus compétente que Sylvain, mais je pense qu'effectivement, il faut se méfier des termes qu'on applique. C'est pas parce qu'il y a des comportements de dépendance et que certains produits stimulent le circuit de récompense qu'on est dans le cadre spécifique de l'addiction.
C'est ça, parce qu'apparemment, au niveau du cerveau, on voyait que c'était les mêmes zones qui étaient activées avec le sucre et la drogue.
Hein. Voilà, mais en même temps, les effets... Alors là, je serais pas compétente pour discuter au niveau des effets, mais moi je suis toujours un peu dérangée quand je vois une étude dite scientifique qui compare des modes d'administration différents déjà. Hein, c'est-à-dire une intraveineuse de cocaïne et puis une consommation orale. Bon,
on ne vous la fait pas, vous, sur la méthodologie, en tout cas.
Vous savez, oui... moi, j'ai tellement vu l'échec des soi-disant bonnes pratiques chez les patients que je rencontrais que j'ai fini par me poser des questions et du coup, j'ai examiné la littérature. Donc voilà. Mais c'est pas parce qu'il y a un comportement de récompense et de plaisir que pour autant on est dans le cadre d'une addiction. La définition de l'addiction, c'est autre chose.
Nicolas, sur Twitter, pouvez-vous nous parler du sucre issu du miel? Est-ce bon ou mauvais? Beaucoup se posent la question. Édouard Pélissier, par exemple?
Alors, le miel contient du sucre, c'est toujours du sucre, essentiellement du glucose et du fructose. Mais à côté, le miel contient aussi des éléments favorables, des enzymes, des vitamines, des polyphénols anti-inflammatoires, ce qui fait que, en gros, ça varie d'un miel à l'autre, mais en gros, le miel a un indice glycémique plus bas que le saccharose. Et il y a quelques expériences, chez l'homme d'ailleurs, qui montrent que comparer du miel à un faux miel qui contient les mêmes sucres, mais pas tous les ingrédients du miel, n'entraîne pas les mêmes conséquences biologiques, notamment sur les éléments du diabète, on va dire, et des glucides, des lipides, pardon.
Jérôme nous dit « Je donne tous les jours du jus de fruits, pur fruit, sans sucre, ajouté et bio. Est-ce comparable à une boisson sucrée, Sylvain Duval ?»
Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument marteler. Un jus de fruits qu'on a pressé le matin, c'est aussi sucré qu'un coca, qu'un cola ou qu'un soda. Et puis là, ce que vient de dire Edouard Pellissier, c'est très important. Quand on compare les aliments, si on fait une étude scientifique où on compare le fructose ou le lactose ou le glucose, en fait, tout le reste de l'aliment va être différent. C'est pour ça qu'une pomme qui va contenir du fructose, c'est pas pareil qu'un soda qui va contenir du fructose. Et ça, il faut vraiment le marteler. Les aliments sont beaucoup plus complexes que ce qu'on veut bien en croire.
La question des édulcorants, avec pour en parler l'extrait d'un documentaire de Marie-Monique Robin, Notre poison quotidien, c'était en 2013. Elle s'entretenait avec le neurologue américain John Olney.
Quelles études avez-vous conduites sur l'aspartame ?
Ma première étude date de 1971 et elle concernait l'acide aspartique, qui n'est pas l'aspartame. L'aspartame est une combinaison de deux acides aminés, l'acide aspartique et la phénylalanine. Mon étude a montré que l'acide aspartique détruit les cellules nerveuses comme le fait le glutamate. Ensuite, j'ai demandé à la firme Searle de m'envoyer un échantillon d'aspartame, ce qu'elle a fait. Je l'ai donné à manger à des bébés souris et j'ai observé les mêmes dégâts cérébraux qu'avec l'acide aspartique ou le glutamate.
Mais si l'aspartame est susceptible de provoquer des tumeurs au cerveau, c'est un énorme enjeu sanitaire. Pourquoi la FDA a-t-elle autorisé cette substance ?
Parce que la FDA n'a pas fait correctement son travail.
Un enjeu sanitaire, effectivement, hein, Édouard Pellissier. La vérité sur les sucres et les édulcorants, c'est ce livre que vous avez signé. Vous avez fait le point donc sur les publications médicales autour de l'aspartame, du sucralose.
Alors, il y a énormément de choses. Je pense pas qu'on puisse tout dire en quelques minutes. Et je voudrais insister sur un point. À part l'effet cancérogène qui peut probablement à petite dose, si on prend une sucrète dans son café, ne doit pas exister. Le plus important, c'est que les études épidémiologiques, toujours, montrent que les gros consommateurs de boissons édulcorées ont les mêmes problèmes qu'avec les boissons sucrées, et y compris le diabète. Alors qu'il n'y a aucune calorie dans ces boissons.
Voilà, et on nous vend les bienfaits, en tout cas l'alternative des
édulcorants. On peut expliquer pourquoi, mais c'est pas si on...
Alors, Sylvain Duval. Hein.
Oui, là, c'est tout à fait dans l'actualité, puisqu'en janvier 2015, l'ANSES a sorti un rapport sur les édulcorants, un rapport qui confirme ce que l'EFSA avait déjà dit, c'est-à-dire que les édulcorants n'ont aucun intérêt pour la consommation, pour la santé, donc tous les différents paramètres, aucun intérêt. Le rapport souligne qu'il n'y a pas de risque avéré, mais moi...
Alors c'est ça, il n'y a aucun intérêt, mais il y a également cette phrase importante, il n'y a aucun danger, et là c'est pas plus gênant
c'est
quand
pas
même.
Pareil, il n'y a pas de risque avéré, donc ça veut dire que le risque il est là, il est présent dans les études, mais qu'il n'a pas l'air, selon ces rapports-là, d'apparaître. Et au niveau du réseau environnement santé, on n'est pas tout à fait d'accord, on a écrit à ce niveau-là, au niveau de l'ANSES, et on se demande pourquoi il y a beaucoup de leurs études citent les fabricants d'édulcorants, par exemple Ajinomoto, et pas les études indépendantes.
Ouais, donc il y a un problème de lobby là aussi quand même, très clairement.
À vérifier.
Michel Lebarzik, il y a des pressions probablement des industriels aussi qui arrivent, on le voit bien, au niveau européen à interférer comme sur d'autres questions, pas seulement sur le sucre. Hein.
Oui, oui, on est d'accord, mais bon, moi je ne suis pas spécialiste de ces questions-là.
Édouard Pellissier.
L'effet cancérogène est prouvé pour plusieurs produits, notamment l'aspartame, chez l'animal. En revanche, chez l'homme, on n'a absolument aucune preuve. Mais parce que c'est très difficile de faire des études chez l'homme. Mais à mon avis, le plus important, c'est que le public comprenne qu'il n'y a aucun avantage à remplacer des boissons sucrées par les boissons aux édulcorants. ça donne finalement les mêmes effets.
Bon, ça c'est vraiment le message au fond à retenir. Hein,
tout à fait.
S'il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est ça.
Et il y a quand même des études qui ont montré que les allégés finalement faisaient augmenter la consommation, parce que comme ça donne l'illusion qu'on en mange pas beaucoup, finalement on s'autorise à en manger plus.
Édouard Pélissier, on lit parfois certaines études de docteurs comme Otto Warburg par exemple, qui nous dit ceci, il suffirait d'éliminer le sucre de son alimentation pour faire régresser un cancer. C'est-à-dire qu'on affame en fait le cancer. Est-ce qu'il y a une base intéressante ?
Je dois avouer mon incompétence. Et je crois que c'est basé sur le fait que sur des cultures de cellules cancéreuses, si on les prive totalement de sucre, donc d'énergie, elles vont finir elles aussi par dépérir. Mais penser qu'on puisse guérir un cancer
en arrêtant
en supprimant
le sucre,
ça suffira pas.
Sylvain Duval, l'effet Warburg.
Oui, l'effet Warburg, en fait, c'était un effet qui... Les cellules cancéreuses, elles ont un problème de régulation. Elles sont pas aussi... Elles peuvent pas se protéger comme les cellules saines, en fait. Et l'idée derrière cet effet, ce serait qu'en fait, les cellules cancéreuses, souvent, elles fermentent, parce qu'elles n'ont pas accès tout à fait à la même vascularisation, puisqu'il y a une tumeur, donc elles sont très, très les unes sur les autres. Elles fermentent. Et donc, en les privant de sucre, on pourrait mettre par exemple, en mettant une personne au jeûne thérapeutique, on pourrait mettre une personne en résistance. C'est une idée qui a émergé il n'y a pas très longtemps, et il y a des essais qui sont en train d'essayer de voir dans cette piste-là.
Beaucoup de questions sur le ou la stevia d'ailleurs.
La stevia,
autre produit donc en ce moment un petit peu en vogue. Qu'en pensez-vous?
La stevia, c'est simple.
Aucun intérêt non plus selon vous, Michel Le Barzic?
Je sais pas.
Vous n'allez pas
les
emballer. C'est le moins qu'on puisse dire.
Pour moi, l'idéal, c'est de manger du sucre en quantité raisonnable. Point très.
Bon, ça c'est votre message à vous, Édouard Pélissier.
Mais la stevia, c'est zéro calorie. Apparemment, pour le moment, oui, ça n'est pas toxique. Mais il semble que ça produise au niveau cérébral, comme vous disiez tout à l'heure, les mêmes effets que les autres édulcorants.
Bon, donc,
ça trompe le cerveau.
À mettre dans le même panier. Finalement.
De la même façon.
Merci beaucoup à tous les trois. Docteur Édouard Pélissier, La vérité sur les sucres et les édulcorants, chez Odile Jacob. Et puis Sylvain Duval, Le guide des aliments contre les idées reçues. Un livre 100% indépendant aux éditions du Cherche Midi. Fabrice Drouel.
Mais bonjour.
Oui, bonjour Fabrice. On vous retrouve dans un instant avec Affaires Sensibles, le thème aujourd'hui de l'émission.
La mort de Malik Houssekine le 6 décembre 1990. 86, pardon, cet étudiant qui avait été tabassé à mort par des policiers voltigeurs. On en parlera aussi avec notre invité David Assouline, devenu sénateur de Paris et qui était dans la coordination nationale étudiante contre le projet de loi de Baquet.
À tout à l'heure.
À demain.